Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 2 du podcast des Amis de la Fête de la Gastronomie, présenté par Claude et Denis. Aujourd'hui, nous sommes outre-Atlantique, sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique, avec une personne extraordinaire.
Catherine Ousselin de Mount Vernon, Washington.
Merci Catherine de nous recevoir dans ton pays. C'est vraiment très gentil à toi d'avoir accepté. Je suis avec mon ami Denis et nous allons échanger.
Bonjour Claude.
Bonjour Denis, bonjour. Et nous allons échanger avec toi Catherine sur ce qui était la fête de la gastronomie et qui est maintenant Goût de France. Nous souhaitons que tu nous dises, Catherine, puisque tu fais la fête de la gastronomie Goût de France depuis le début, pourquoi est-ce que tu as fait cette fête de la gastronomie? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte à tes élèves? Quelle est l'implication de la gastronomie au sens large pour tes élèves? Si tu veux bien parler sur ce sujet.
Bonjour Claude, bonjour Denis. Je suis professeur de français depuis, je crois, 17 ans maintenant. Et j'ai commencé dans un autre lycée qui n'est pas trop loin d'ici, l'idée de fêter la gastronomie. Quelle surprise, fêter la gastronomie. J'ai commencé en 2003 avec ma première fête personnelle. C'était que j'ai invité mes amis de venir après l'école, de cuisiner parce qu'il y avait des cuisines à l'école pour les cours de nourriture et de nutrition. Et donc, on a commencé avec notre première petite, c'était uniquement des crêpes sucrées. Et tout le monde s'est bien régalé. On a préparé avec de la crème chantilly, des fraises, du Nutella, bien sûr. Nutella, c'est le rêve de mes élèves, ils aiment bien. Et après, ils ont continué. Madame, est-ce que nous pourrions faire cuisiner d'autres choses? Et j'ai dit, on va explorer les régions de France. Et puis, ils ont commencé à étudier pour chaque région les spécialités. Et ils utilisaient l'Internet parce qu'à ce moment, l'Internet est assez nouveau. Et ils ont commencé à rechercher des recettes et on a appris le vocabulaire de la cuisine, la batterie de la cuisine, les aliments, en apprenant les recettes. Donc, pour notre deuxième fête de la gastronomie, pour nous, c'était, il y avait 5 cours. Il y avait 5 choix de... Il y avait du bœuf, du poulet, il y avait quelque chose de marocain, il y avait quelque chose de suisse. On voulait montrer aussi que ce n'était pas juste la France, que c'était la francophonie aussi sur nos assiettes. Donc, après ça, j'ai continué parce que tout le monde a vraiment, on a formé ce groupe et chaque fois qu'on discutait la nourriture, chaque élève disait « Ah, moi, j'aimerais bien essayer ça. » Et puis, il y avait un autre élève qui a dit « Ma famille cuisine la même chose, mais on va ajouter ces ingrédients. » C'était très bien. Et j'ai vu que dans mes cours, quand on parle de la cuisine ou quand on parle de la gastronomie, ça unit. Ça unit parce que chaque personne prend ses expériences avec la cuisine parce qu'avant, il y avait des élèves qui ne pouvaient pas même cuisiner de la soupe ou des gaufres ou des pancakes. Ils ne savaient rien parce que, à vrai dire, dans les familles, peut-être, ils ont perdu l'idée de cuisiner et de manger ensemble. Et c'était aussi un autre but pour moi de dire, OK, on va se réunir et on va manger ensemble, on va parler, on va se regarder, on va faire un dîner en famille. Et donc, on a utilisé tous ces trucs pour montrer aux élèves, OK, voici ce qu'il faut faire pour manger ensemble, pour fêter la cuisine ensemble. Et ils ont bien aimé. Et surtout quand on a fait des choses qui étaient un peu compliquées. Moi, je ne suis pas cuisinière, mais je peux bien cuisiner. Et je regarde sans cesse des vidéos sur YouTube pour apprendre les techniques, etc. Mais avant, c'était juste nous ensemble. Il y avait un professeur de cuisine dans notre école qui me donnait des astuces.
Oui.
Donc, on a continué avec ça pendant des années. Puis, j'ai quitté cette école-là. Je suis venue ici. Et l'histoire à cette école avec le français, ce n'était que la grammaire et les examens. Donc, je voulais changer un peu l'aspect de la francophonie et du cours de français ici. Et donc, j'ai commencé avec le premier dîner ici en 2007 ou 2008. Et quel succès! Il y avait 90 élèves qui sont venus.
Ouais.
90, j'ai cuisiné toute seule avec eux. On a beaucoup mangé, et c'était vraiment comme ça mes cours. J'ai commencé avec 3 cours, ok? Et puis 3 cours de français, 3 cours d'espagnol. L'année suivante, il y avait 6 cours de français. L'année suivante, après ça, il y en avait 9, et puis 12, et maintenant, il y en a 12 maintenant. Et ce n'est pas grâce à la fête de la gastronomie ou au goût de France, mais chaque année, ça va stimuler. Et on invite n'importe qui, si vous avez des amis, invitez-les, on va fêter ensemble parce que c'est la communauté. Puisque nous habitons dans une vallée agricole, bon, on a aussi des pommes de terre, des betteraves, des bleuets ou des framboises, des fraises. Tout ce c'est les fruits et les légumes, mais aussi du bœuf, du bison en fait, du canard. Je voulais utiliser tout ce qui vient de notre vallée pour produire quelque chose qui est biologique ou local. Et donc, on a commencé à demander aux fermiers dans le coin, est-ce que vous pourriez nous aider avec une partie du dîner. Ça marche assez bien. Parce que ce n'est pas toujours la saison où je veux acheter quelque chose, mais on essaie. Il y a des moments où les élèves disent « Ah, madame, vous vous souvenez quand on a fait ça et ça? Est-ce que nous pourrions faire ça l'année prochaine? » Parce qu'on va faire une soirée de dessert en février pour fêter la Saint-Valentin. Ils s'intéressent déjà, ils disent bah, « C'est à vous de chercher les recettes ou d'imaginer ce qu'on va faire. » C'est vraiment, ça unit ce qu'on fait. Donc, la fête, le goût de France, c'est une occasion de partager nos passions pour la cuisine. Et je vais ajouter aussi que mes élèves, ils sont, comme j'ai dit, la plupart, ils sont hispanophones. Et dans cette communauté, ils n'ont pas vraiment la possibilité de vraiment manger quelque chose qui n'est pas American food ou de cuisine mexicaine ou d'El Salvador, je ne sais pas. Mais ici, on n'a pas beaucoup de restaurants exotiques. Il y a des restaurants fast-food et il y a quelques restaurants qui se spécialisent en cuisine locale. Mais c'est trop cher pour mes élèves.
Ouais.
Donc, ils n'ont pas cette idée de sortir au restaurant pour avoir le plaisir d'un vrai dîner. Et même à cet âge-là, les adolescents s'intéressent plutôt au sandwich ou à la pizza qu'au dîner extraordinaire préparé avec des cours différents, avec des courses différentes. Donc, j'essaie de leur montrer comment on peut manger dans une autre société, dans une autre culture, les traditions, les coutumes, etc. Donc, c'est mon idée d'ouvrir le monde culinaire.
Denis, tu veux intervenir?
Je goûte les paroles.
Catherine, t'as dit plus. Oui, vas-y, Denis.
Et tout ce que ça revêt, parce que moi, je note cela effectivement dans la dimension, en dehors du plaisir de faire, je note ça, c'est-à-dire l'union, l'autonomie, la recherche. Donc, c'est pédagogiquement en plus, c'est d'une richesse exceptionnelle. Et chapeau, quoi. C'est tout ce que
Merci. Je dis. Merci. quand il s'agit de manger, les adolescents sont tout à fait prêts. Et c'est facile de présenter la nourriture, de présenter la culture avec la cuisine, etc. C'est plus facile de... Je ne suis pas là pour utiliser la carotte, comme on dit, pour faire participer les élèves, mais on utilise du Nutella.
Oui. Bon, cela dit, le Nutella, vous pouvez le faire avec des noisettes et une
Oui. Et on a changé parce que je n'achète plus de Nutella. Désolé pour Nutella, mais je n'en achète plus parce que il y a à cause de cette huile.
L'huile de palme. Oui.
Et donc on va essayer de faire notre propre ensemble, mais j'achète quelque chose de plus local maintenant.
Oui. Non, mais tout ça, tout ce que tu dis est vraiment extraordinaire. J'ai noté différentes choses dans ce que tu as dit. Donc tu fais, toi, une fête de la gastronomie depuis 2003. C'est ça que tu me dis.
Bah, une idée que, ouais, parce que ce n'était pas officiellement la fête de la gastronomie, oui. Mais je cuisine avec mes élèves depuis 2003.
Donc, oui, ça veut dire que tu avais bien compris que, et comme tu viens de le dire justement, à travers la cuisine, on travaille sur tous les sujets et que dans un cadre éducatif, la cuisine concentre beaucoup de règles de vie, en fait.
Oui, c'est ça. Voilà. Ils aiment bien quand on... Je me souviens parce que l'année dernière, pour Français 3, sont les élèves qui ont étudié depuis 3 ans et on a fait nos recherches sur les régions de France qui ont changé ce que j'avais toutes mes leçons basées sur les régions. Et c'était changé en 2016, correct?
C'est ça? Oui.
Ok, maintenant, je me suis dit, ok, est-ce que je vais tout changer juste à cause du fait que les régions ont changé? Et j'ai dit non, je vais continuer avec les anciennes régions. Mais quand même, chaque semaine, j'apportais quelque chose de nouveau pour les élèves. Une fois, c'était du bœuf bourguignon. Et bah, un an plus tard, ils en discutent toujours. Madame, quand est-ce qu'on va faire encore du bœuf bourguignon? Ouais. Et c'est vraiment un souvenir culinaire qui promeut la conversation et cette idée de communauté.
Oui, l'échange et le partage.
Exactement.
Ah. Oui, je voulais rajouter aussi quelque chose. Ça ajoute aussi une dimension géographique en dehors de toutes les autres qualités. Mm-hmm. Et je crois que c'est exceptionnel parce qu'il me semble que les Américains en moyenne, c'est peut-être une mauvaise image, mais ont vraiment peu de connaissances de la géographie. Et là, c'est une dimension exceptionnelle parce que c'est hors de leur... hors de leur pays d'origine et hors du pays où ils viennent vivre et apprendre, quoi. Donc, c'est exceptionnel, ça.
Je suis désolée pour les professeurs de géographie ici parce que c'est juste les cartes et les livres. Et pour nous, c'est un dîner.
Oui. Ouais,
parce que je peux tenter les élèves à plutôt pour étudier la géographie si je lis la géographie avec la cuisine.
Mais bien sûr.
Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça quand on utilise un objet pour attirer les autres.
Oui.
Ouais. Bribing. Chantage. Est-ce que c'est du chantage?
Non.
Pas du chantage.
Que pourrait-on dire?
Attirance. L'attirance,
il y a un autre mot, mais ça va nous revenir.
C'est l'attirance, c'est justement, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que ça attirer, c'est aussi sortir d'eux, parce que là, c'est ça, c'est l'ouverture, c'est la compréhension des choses, c'est l'humanité, c'est la carte, c'est le territoire, mieux, c'est plus le territoire que la carte, ce qui est encore mieux.
Oui,
tout à fait.
Vas-y, Catherine.
J'ajoute aussi parce qu'on lit, on a des livres, on a des articles, on regarde des vidéos. Ce n'est pas juste qu'on mange, ok? Je ne veux pas insister sur moi. Mais c'est l'idée, je vais incorporer littérature, musique, histoire, des articles professionnels, etc. Tout ça pour soutenir l'idée, pas pour juste manger.
On a bien compris ça, j'ai bien compris ça depuis qu'on discute ensemble, que tu utilises la cuisine française ou d'ailleurs d'autres pays pour que tes élèves voient immédiatement le rapport entre ce qu'ils ont dans la main ou dans l'assiette et effectivement une région ou une histoire de la région. Ça, c'est vraiment un grand bravo. Et alors, tu as dit aussi une chose, que lorsque tu as commencé à faire ces fêtes avec tes élèves, et que tu t'es rendu compte qu'ils ne savaient pas faire grand-chose.
Oui.
Vas-y.
En fait, il y a, j'ai montré la semaine dernière, il y a 2 semaines peut-être, la galette des rois. Ouais. Il y a une excellente vidéo en ligne qui montre, c'est juste visuel avec les ingrédients et les quantités pour faire la galette.
Ouais.
Déjà, 2 élèves qui sont rentrés chez eux, ils ont préparé des galettes pour les familles. C'était vraiment, ils ont pris des photos, je dis, bah, wow, c'était un impact, c'est vraiment incroyable, ouais. Parce qu'ils sont... Ils sont vraiment engagés, ils vont préparer ça chez eux.
Oui.
Et ça m'a vraiment touchée. Parce que oui. C'était juste une vidéo que j'ai montrée en classe pour montrer ce qu'on fait. Parce que chez les Mexicains et chez les hispanophones, il y a la rosca qui est similaire à la galette. Et il y a le petit, il y a la fève. Mais si on trouve la fève dans la culture mexicaine, c'est du malheur, c'est une malchance. Ah. Donc, on a comparé les cultures parce que j'ai dit, oh, j'ai la fève, j'ai la fève. Ils ont dit, oh non, non, je ne veux pas la fève. Pourquoi? Ouais. Parce que chez eux, si vous trouvez la fève, c'est-à-dire que vous êtes responsable de préparer le dîner pour la famille. Donc, j'ai dit, bah, je ne savais pas. Et comme ça, on a échangé cette information culturelle. Qu'est-ce qu'on fait le 6 janvier chez nous et chez vous?
D'accord. Vraiment, ça c'est vraiment extraordinaire. Et justement, la question que je voulais te poser, tu parlais aussi de leurs préférences culinaires, le sandwich, parce que l'on mange traditionnellement aux États-Unis, par rapport à ce que tu leur fais découvrir qu'ils apprécient beaucoup et qu'ils font, qu'ils commencent à faire chez eux. Vraisemblablement, quand tu rencontres d'anciens élèves, est-ce qu'ils ont forcément des souvenirs de ce que tu leur as fait? Et peut-être ils changent enfin, ils se disent que il faut manger différemment comme tu leur as appris.
Il y a bah, encore la semaine dernière une fille qui nous a quitté il y a 3 ans, 4 ans. Elle a affiché quelque chose sur Instagram. Je ne la suis pas, mais il y a sa cousine qui est dans ma classe. Elle est venue, elle m'a montré son téléphone et c'était une photo de crêpes. Il y avait une pile de crêpes et c'était marqué « Merci beaucoup, Madame Mousselin
ouais. ».
Ça fait des années que je ne la vois pas. Je ne suis pas en contact avec elle, mais elle m'a mentionné sur sa photo Instagram avec des crêpes. Je les rencontre dans notre ville. Ils sont allés à l'université ou à l'école culinaire. J'en ai 2 ou 3 qui sont déjà allés dans des écoles prestigieuses. Une école Cordon Bleu aux États-Unis. Okay. Et ils reviennent, ils disent, OK, madame, votre sauce que nous avons préparée pour ça. Je dis, ah, elle n'est pas bonne. Maintenant, j'ai la meilleure recette. Je dis, OK. Vous savez pas. Et, bah, ils reviennent quelquefois après 8 ans. J'ai un élève qui est venu, c'était en décembre. Et ça, il a fini ici il y a 8 ans. Il est revenu, il a 24 ans, 25 ans maintenant. Il m'a raconté, oh madame, vous vous souvenez de ce qu'on a préparé pour la fête de la gastronomie? Je dis oui. Et donc, je l'ai fait pour ma copine.
Oh.
Voilà, donc je dis OK. Donc, je sais que j'ai fait quelque chose de très, très bon avec
eux. Oui, tu as fait quelque chose de très bien et qui les marque à vie et qui participe à leur construction de femmes et d'hommes. Tu leur mets des repères, tu leur donnes de la culture, c'est vraiment extraordinaire. En fait, on se rend compte, on en avait déjà parlé, on se rend compte que tu es les profs chez vous, vous êtes un petit peu plus libres que les profs chez nous.
Oui, c'est vrai, ok. Je dirais, il y a une cuisine ici pour les cours de cuisine. Donc, c'est une grosse cuisine avec 8 petites cuisines. Donc, ça, on peut le faire après l'école. Aussi, dans ma classe, j'ai des plaques. C'est ça le mot, les plaques de chauffage. Je peux cuisiner des crêpes en glace ou quelque. J'ai un micro-ondes, j'ai un petit four pour faire des pains au chocolat le matin. J'aime bien quand ils arrivent en classe, il y a du pain au chocolat, ils disent oh, ça sent très bon en entrant dans la classe. C'est vrai que j'ai beaucoup de liberté où je travaille et c'est grâce aux administrateurs qui me laissent. Qui me laisse faire mes petites expériences.
Oui, ils te connaissent, ils savent que tu as de très très bons résultats et comme on vient de le dire, les élèves se rappellent de toi et dans ces instants parfois de vie un peu difficile que l'on peut vivre dans une vie d'adulte, on se souvient forcément de nos profs qui nous ont marqués.
C'est ça. J'ai toujours les souvenirs de mon troisième ou quatrième professeur de français au lycée, elle nous a invités chez elle et elle nous a préparé un vrai dîner français. Et je n'oublierai jamais. Mon premier professeur de français, elle nous a fait couper des oignons pour la soupe à l'oignon.
Ouais.
Tout le monde pleurait, on avait 12 ans et c'était un souvenir qui m'a vraiment marqué que c'était un professeur qui a pris son temps après l'école, pour travailler, pour continuer à travailler avec ses élèves, pour montrer une autre partie du monde.
Donc, vous allez faire pour la Saint-Valentin une soirée dessert.
Oui.
Ah. Tu peux...
Peut-être du chocolat. Ils ont demandé, parce qu'on a fait des truffes, pour Noël, il y avait 30 élèves ici. Je montre parce que il y avait 30 élèves ici. J'ai acheté presque 5 kilos de chocolat avec des noix, de la coco râpé, etc. pour ça. Et ils ont décoré des truffes. Donc j'ai dit, OK, pour la fête de la soirée des desserts, qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont dit des pâtes à choux. Ils ont mentionné encore des truffes, mais je ne veux pas. C'est un peu de travail. Des fondants au chocolat. Des fondants au chocolat, des petits gâteaux comme ça. Peut-être un soufflé qui est très similaire. Je ne veux pas que ça reste tout à fait basé sur le chocolat, mais ils sont en train de rechercher ce qu'on va préparer.
D'accord. Quand tu travailles sur une recette, justement, est-ce que par rapport aux ingrédients, par exemple une fève de chocolat, où est-ce que c'est cultivé? Comment est-ce que c'est cultivé? Est-ce que tu fais ça?
Oui, on a une unité sur la production, la distribution et la consommation de la nourriture aux États-Unis et dans le monde. Ouais. C'est une unité qui montre aux élèves d'où vient notre chocolat. Et parce que le chocolat, c'est vraiment une histoire. J'ai un article qui explique ça pour les adolescents. C'est une façon facile pour l'expliquer. J'ai des vidéos, etc. Donc, on va montrer, parce qu'ici, chez nous, on produit beaucoup, mais je ne sais pas s'ils comprennent que le chocolat, le café, le safran, c'est ça. Comment c'est cultivé? Comment ça arrive ici? Parce que, comme j'ai dit, notre ville, c'est très rural. Et on n'a pas tous les ingrédients exotiques ici. Il faut que j'aille quelquefois à Seattle pour en acheter ou chez moi à Bellingham. Il y a au Canada, parce que je n'habite pas très loin du Canada, je peux aller chercher les ingrédients qui ne se trouvent pas ici. C'est vrai qu'on étudie comment est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on trouve nos ingrédients.
Oui, ça c'est vraiment bien. Et par rapport à ce que tu disais, où tu travailles avec les producteurs de ta vallée, la production locale, donc on est vraiment, c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je suis content que tu aies accepté de faire ce podcast, parce que pour que les gens, parce que en France, il y a vraiment, tu as bien vu, un très grand mouvement d'écologie, de consommation locale, que l'on appelle le locavore. Donc, ça, c'est très important, et notamment chez les jeunes parents, les trentenaires, les quarantenaires, ils font très attention à la nourriture pour leurs enfants et donc pour eux. Et on essaie vraiment de travailler avec les producteurs locaux comme tu le fais. Et c'est aussi un des points qui est mis en avant pour Goût de France, c'est-à-dire travailler avec les gens en local le plus possible. Évidemment, il y a des produits que l'on ne cultive pas chez nous, donc on va les faire venir. Mais si on les fait venir, on essaie de voir qu'ils ne sont pas cultivés avec l'huile de palme. Ou pour le chocolat, en Afrique, ce n'est pas les enfants qui vont casser la cabosse. Voilà, des enfants qui vont travailler, mais qui ne sont pas payés, qui sont exploités. Donc je suis très content parce qu'au moins les gens qui vont écouter ce podcast, ils vont bien comprendre qu'il n'y a pas qu'en France où l'on parle de la consommation locale et que l'on parle d'économie durable et que l'on parle sauvegarde de la nature et des produits. Et surtout que l'on a le respect du produit, le respect de ce que l'on a dans son assiette, parce que c'est rattaché à une histoire, à un territoire. C'est très intéressant. Denis, tu veux... Oui.
Non, je repense à ce qu'on avait un petit peu abordé entre nous avant de démarrer. Il y a quand même, malgré le rêve américain qui est bien entamé, il y a quand même un little hope, un petit espoir.
Oui, 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 oui.
C'est une question, Catherine.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et j'espère que c'est moi qui offre cet espoir aux élèves. Je voulais ajouter que nous faisons une unité en français 2 sur les cantines scolaires mondiales.
Wow.
Parce que chez nous, ce qu'on mange, ça arrive dans un camion, c'est gelé, c'est congelé.
Oui.
Et c'est pas frais, ce n'est pas local, c'est dégoûtant, c'est mal cuit. C'est vraiment un désastre. Ouais. Et puis, je montre aux élèves des vidéos de ce qu'on mange dans les cantines scolaires en France. Je sais qu'il y a une différence entre ce qu'on montre dans les vidéos et ce que les enfants français disent. Mais il y a le choix, il y a une variété. Il y a des légumes et des fruits qui sont frais, qui sont biologiques. J'ai entendu, il y a des petites histoires avec ça.
Oui.
Mais ils sont jaloux des déjeuners aux écoles françaises.
Ouais.
Ils ont pris des photos de notre déjeuner. Ils ont construit une présentation pour notre superintendent. C'est la personne qui gère le district. Pour montrer, cher Dr. Brunner, ce qu'on mange ici n'est pas propre, n'est pas bon, n'est pas sain. Regardez ce qu'on mange ici et regardez ce qu'ils mangent ailleurs. Et ils ont comparé pour montrer. Ils sont ravis qu'il y ait chaque jour du pain, des desserts, le choix de d'entrée, etc. Ça, c'était peut-être la raison. Je commence en septembre avec cette unité pour promouvoir la cuisine et la production des aliments, etc., local. Et ils sont au point, ils veulent protester, manifester contre ce qu'on mange ici, juste à cause de cette unité où on a comparé. Ils ont exploré les menus en ligne. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'il y a entrée, plat principal, et puis on a discuté les coutumes, les traditions de manger dans un autre pays. Ça, c'est vraiment... Si on peut faire une connexion avec ça, pour montrer aux élèves, il faut quitter son local pour explorer le monde.
Oui. Alors, je peux sans doute faire quelque chose. Enfin, nous pouvons sans doute faire quelque chose dans ce sens. Je crois que j'en avais déjà parlé. Tu sais que pour mon bouquin « Je cuisine un jour bleu », il a été fait par l'école de Paris des métiers de la table, qui sont des gens vraiment tout à fait charmants. Et au directeur, j'ai déjà parlé de toi et de ce que tu faisais, de ton travail de prof et comment tu faisais ton travail de prof. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Je vais discuter de ça avec lui. Je vois son président à la fin du mois à Paris, justement au comité de pilotage à Bercy de Goût de France. qui se passe cette année le 22, 23, 24 mars. C'est la date à changer. Bon. Mm-hmm. Et je vois le président parce que l'École de Paris des métiers de table est une association. C'est une association qui est en contrat avec l'Éducation nationale. C'est une école de formation pour les métiers de la restauration et également pour les métiers de la table, de la salle, c'est-à-dire les serveurs, les œnologues, tu vois, tous les gens qui travaillent en salle. Et parce que ils ont des partenariats avec déjà beaucoup de pays étrangers. Alors, ils ont un partenariat notamment avec la Chine, mais avec d'autres pays aussi. Je ne sais pas s'ils ont déjà un partenariat avec les États-Unis.
Ooh.
Mais je vais lui en remettre une couche par rapport à toi. Et donc, ça veut dire que l'année passée, quand j'y étais pour le bouquin, il recevait une délégation chinoise. Il y avait une quarantaine de Chinois qui débarquaient, d'officiels chinois qui débarquaient, tu vois. Bon. Et après, il y a des élèves de l'école ils sont allés en Chine. Donc, ça veut dire qu'il y a des budgets qui sont dégagés pour ça. Et je trouve que tu mérites vraiment qu'on fasse cette démarche pour toi, pour tes élèves, bien sûr. Mais tu te donnes tellement de mal. Enfin, de mal, c'est pas du mal, mais...
C'est pas du mal.
C'est du plaisir, mais tu donnes beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Et justement, c'est intéressant que... alors, c'est pas que les Français apportent la bonne parole en cuisine, non, mais c'est de montrer ce qui se passe. Et bon, et vous avez pris l'exemple de ce qui se passe ailleurs pour faire la comparaison. Donc, je lui en parle. Alors, il s'appelle Ismaël Menot. C'est vraiment un garçon charmant. Je te mettrai aussi sur Facebook. Il y a un chef qui publie beaucoup sur Facebook et c'est un chef qui est en collectivité. Donc, comme chez toi, qui est dans une école. Il fait des repas extraordinaires. Tous les gens disent, mais punaise, mais comment tu fais, quoi? Comment tu fais? Mais
Est-ce qu'il est sur Instagram?
Alors, attends, je vais te dire.
Je vais chercher, merci.
Oui, il s'appelle, je vais regarder sur Facebook, il s'appelle Demangel.
Je pense que c'est Christophe.
Christophe Demangel.
Yes, je le connais. Bah, je ne le connais pas. Je le suis sur Instagram et chaque jour, je montre les œuvres. Qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui dans cette école? Yeah, c'est ça.
Ah ben c'est extraordinaire que tu suives Christophe Demangel. T'as vu, c'est incroyable.
C'est incroyable parce que quand je le montre en classe, ils sont. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas manger chez lui? Je dis, ah, ok, on y va.
Oui. Et ça c'est bon. C'est lui, c'est tous les jours dans son. Alors il fait pour son collège, mais il fait aussi pour les personnes âgées.
Oh, ça c'est gentil.
Ouais, ouais, ouais. Donc il fait, il doit faire 400 repas par jour.
Incroyable.
Tu vois?
Ce travail. Parce que ça donne. Ok, chez nous, ce qu'on mange, ce sont du poulet frit avec des frites et de la sauce de pommes et ouais. Une purée de pommes. Ouais. On ne peut pas deviner que c'est du poulet. La qualité est si mauvaise ici. Et quand on voit ces aliments, ces préparations, si belle et si bien décorée, etc., ça donne envie de manger. Ici, ils mangent juste pour manger. Ils mangent juste pour couper l'appétit.
Ouais, ouais.
Et c'est triste.
C'est très triste.
Ouais, mais bon, les élèves, quand on parle de l'idée de vraiment aimer ce qu'on mange, ouais. Pour eux, quelquefois, il s'agit juste de nourrir son corps.
Oui, oui. Et c'est juste, et c'est là où toi tu interviens et tu fais un travail absolument remarquable. Et je suis vraiment très, très content que tu aies découvert Christophe de Mangel, que je ne connais pas, hein, mais on se suit. On se suit sur Facebook, et c'est vraiment extraordinaire que tu le suives. Oui, et je te parlais de l'École de Paris des métiers de table. Si tu vas à la fin du bouquin de Je cuisine un jour bleu, tu verras, hein, voilà, tu verras, il y a, oui, je le vois là-bas, je le vois dans le fond. Il y a Ismaël Menot, Guillaume Gomez et Christophe Ligny. Et Christophe Ligny, c'est lui qui a refait toutes les recettes. Et c'est lui, oui, et c'est lui qui a formé Guillaume Gomez. À l'époque.
Donc la connexion est bonne, ok.
Tu imagines la connexion,
hein? Wow.
Et donc Guillaume Gomez a été formé à l'École de Paris des métiers de table. Hein? Donc on a, avec Guillaume, on a plein de projets justement. Tu dis, il faudrait faire qu'il y ait une connexion avec des élèves, avec des écoles françaises. On est en train de, alors Denis, il ne sait pas encore, parce que c'est tout récent, c'est d'hier ou d'avant-hier, avec l'Université de Toulouse et Joseph Chovanec. On a été appelé par le président de l'Université de Toulouse parce que pour le 2 avril, qui est la journée mondiale de l'autisme, ils veulent qu'il y ait une recette de Je cuisine un jour bleu qui soit cuisinée dans toutes les universités françaises.
Oh, wow!
Et donc, Guillaume Gomez va participer à ce projet. Donc, il va travailler avec des cuisiniers de la structure. Donc, tu vois, c'est un très beau projet. Donc, c'est un petit peu ce que tu disais. Pour faire connaître aux enfants, aux élèves, qu'il y a de meilleurs moyens de manger de très bons produits et des produits variés. Je pense que peut-être ton temps est bientôt terminé là, tu vas partir.
Ah non, la cloche va sonner à 9h15.
Ah d'accord, bon, ok.
On a une quinzaine de minutes.
Bon, on va, mais si on n'a pas fini, on refera une autre séance après, hein. c'est pas grave. Denis, je te laisse la parole un peu.
Oui, j'ai un souvenir d'avoir rejoint mon fils qui a passé un an à Greenwood, dans un état absolument pas raciste, et j'ai mangé un jour des bâtonnets de poulet. Le lendemain, un bâtonnet de viande. Le surlendemain, un bâtonnet de poisson avec beaucoup d'emballage. J'avais l'impression d'avoir toujours la même chose devant moi. Au bout de 3 jours, j'étais écœuré. C'est un souvenir dramatique. Je conçois tout le travail que fait Catherine et je le comprends parce que là, c'était catastrophique, quoi. Ça ne peut pas donner d'envie de découvrir, de vivre, de ressentir et de grandir et justement de s'ouvrir aux autres. C'est impossible, quoi. Voilà, c'était juste pour confirmer que c'est… Alors, on a découvert, ça c'est peut-être moins bien aussi, mais c'était quand même plus intéressant pour nous, passagers. On a découvert les buffets, où là, quand même, dans certains lieux, et ainsi que les délicatessènes, où là, quand même, il y a un petit peu plus de variété, moins d'emballage et quand même quelques produits qui étaient mangeables.
Mangeables, voilà. C'est ça le mot. je vois quelquefois des élèves qui mangent la même chose chaque jour. C'est un burger de poulet avec des frites qui ne sont pas cuites. Et chaque jour, je dis, mais pourquoi est-ce que tu n'apportes pas quelque chose de la maison, un sandwich ou quelque chose que des restes du dîner. Et c'est une question un peu compliquée parce qu'il y a quelquefois des élèves qui ne mangent pas chez eux.
Oui.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir à la maison. Donc, ce qu'ils mangent ici à l'école, c'est vraiment pour survivre.
Ah, c'est incroyable.
Yeah. Et ça, c'est une réalité aux États-Unis. Il y a des gens qui souffrent de faim.
Oui, mais on a vu dernièrement qu'il y avait aussi ce phénomène en France, de moins grande envergure, mais malheureusement, ça existe aussi. J'ai toute une autre série de questions. Denis, tu m'arrêtes hein, quand tu…
Tout va bien, c'est tellement passionnant que je n'ai pas trop à intervenir. C'est très,
non, mais
très
justement,
bien. C'est une magnifique découverte. Voilà.
Oui, je vais te laisser un peu la parole après parce que je voudrais demander à Catherine, quand vous faites des plats avec les élèves, est-ce que et que vous, est-ce que vous travaillez la présentation?
Je dirais honnêtement, je ne suis pas artiste. C'est-à-dire la présentation de l'apparence.
De l'assiette, c'est-à-dire quand...
Oh, je sais, mais Claude, est-ce que tu as vu quelquefois, j'affiche des photos sur Facebook de ce que je prépare chez moi?
Oui.
Yeah. Je peux produire quelque chose qui est délicieux, mais qui n'est pas toujours très beau.
Oui,
j'essaie de former l'assiette. Je vais montrer ça aux élèves, l'idée, mais je n'arrive pas vraiment à décorer une assiette.
Catherine, j'entends. Cela dit, peut-être dans tes élèves, il y a des élèves qui sauraient faire une assiette visuellement comme un tableau. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Et je pense aussi que c'est grâce aux émissions de télé, avec de la télé-réalité, avec les compétitions de cuisine.
Oui.
Vous voyez ça? Parce que oui. C'est une partie de la note des juges.
Oui.
Ça se voit comment? OK, ou ça se présente comment? Et comme ça, les élèves disent, madame, on pourrait faire comme ça pour rajouter un peu de couleur ou pour... Oui. Avec le riz, ils aiment bien faire des pilons de oui. riz. Et je dis, oh, wow, OK, bonne idée. Je leur laisse le choix comment ils vont décorer, mais je donne l'idée. OK, voici une photo d'une assiette bien préparée, bien organisée, bien équilibrée, etc. Et oh, j'essaie de le faire. Et ils sont plus... Quelquefois, ils sont plutôt artistes.
Oui, c'est cette dimension dont je veux parler, parce que ça fait travailler aussi leur imagination. Ça fait aussi travailler, parce que qu'ils aient un crayon dans la main et une toile ou une feuille de papier sur laquelle ils vont dessiner, l'assiette, ils vont aussi faire marcher leur imagination pour fabriquer une belle présentation d'assiette. Et donc, je te dis ça parce que, en même temps, il serait peut-être possible qu'il y ait des élèves qui viennent avec des appareils photo.
Oui.
Et en même temps, tu leur fais travailler la photo et vous faites une expo. Et là, je passe la parole à Denis.
Oui. Oui, oui, c'est vrai que... Mais je pense que les images, ils doivent en faire quand ils ont préparé leur plat, ou etc.
Sans cesse, sans cesse.
Ah bon, ça va alors.
Ils aiment bien mettre leurs photos sur Instagram ou Snapchat. C'est les réseaux sociaux qui dominent.
Oui, oui. Et alors, est-ce qu'ils utilisent Snapchat pendant les cours? Est-ce qu'ils sont autorisés?
Pendant le cours, non, je suis assez stricte avec ça. Les téléphones ne sont pas visibles pendant le cours.
D'accord.
Et pendant le club français ou pendant les dîners, bien sûr, je veux qu'ils partagent avec leurs amis ce qu'ils font dans le club français.
D'accord. Bon, mais alors, oui, ça veut dire qu'ils dessinent. Est-ce qu'ils dessinent leur présentation d'assiette ou pas du tout aussi?
C'est vrai, il y a un professeur de photographie ici et il y a une bonne dizaine d'élèves qui suivent ce cours. Et quand on a notre fête de la gastronomie, ils sont chargés de prendre de bonnes photos.
Ah, voilà.
Parce qu'ils ont des vrais appareils photo, des vrais qui n'est pas juste un téléphone. C'est quelque chose de très avancé.
D'accord. Mm-hmm. Bon, ben voilà, déjà, ça marche. Ça, c'est, vous faites ça.
Et les photos sont publiées dans notre annuaire, oui. Dans notre yearbook, où il y a des photos des clubs, etc. Et c'est pour ça que j'ai invité ces élèves de participer plus tôt avec les appareils pour montrer la bonne côté de ce qu'on fait.
Oui, tu m'avais montré une année. Et est-ce que vous faites, avec ces photos, est-ce que vous faites une exposition dans le lycée ou pas du tout?
Ça, j'ai le droit maintenant. Autrefois, je n'avais pas d'espace dans l'école où montrer les photos de nos cours de langue. Mais maintenant, j'ai un petit parti du mur où je vais afficher toutes les photos. C'est nouveau cette année. Donc, entre les deux semestres, je vais créer le... C'est un panneau à Liège.
Oui, d'accord.
Et comme ça, j'aimerais bien partager les photos de nos activités.
Oui. Est-ce que tu fais intervenir parfois des chefs de cuisine dans ta classe? Oh,
j'essaie. En fait, j'ai invité Thierry Rodereau, qui est un chef très connu aux États-Unis, les Français.
Parlé, oui. Mm-hmm.
Et nous avons écrit cette lettre, mais il était occupé. Mais nous sommes connectés maintenant sur Facebook. J'aimerais bien encore l'inviter à la prochaine fête ou au prochain Goût de France. Il y avait un autre professeur qui a un professeur, un cuisinier, un chef qui habite chez moi à Bellingham, qui n'est pas trop loin. Mais récemment, il a fermé son restaurant et je ne sais pas s'il a quitté le coin. Mm-hmm. J'essaie de le faire, mais d'inviter un chef où j'habite, il faut voyager peut-être 30 mm-hmm. minutes ou 2 heures. Mm-hmm. Je continue à rechercher des chefs pour participer à nos activités.
Oui, oui. Tu vois, par exemple, pour la fête de la gastronomie l'année passée, qui est au bout de France aussi, la région française Val-de-Loire a fait un partenariat avec, donc pas très loin de là où habitaient tes beaux-parents, pas très loin de Nantes, ils ont fait un partenariat avec la Louisiane.
Oh, bien sûr, oui. Et là, ils ont de la chance.
Ouais, et il y a un chef de la Louisiane qui est venu à Nantes ou à Bourges, je sais plus, et il est resté tout le week-end de la fête de la gastronomie. Il y a eu vraiment beaucoup d'événements. Je ne sais pas s'ils vont le refaire. Je vais demander parce que c'est la dame qui s'appelle Dominique Doren. Dominique mm-hmm. Doren. Je la vois aussi à Bercy la semaine prochaine. Je vais lui demander si le chef louisianais revient. Mais bon, là, c'était pris en charge par le département, tu vois, parce que ça représente un budget aussi. Donc oui, il y a des échanges que l'on peut faire, mais maintenant ça me brille la tête ce truc avec Ismaël Monod, l'école de Paris. Là, on va vraiment tenter de faire quelque chose. Est-ce que tu fais quelque chose pour le mois de mars, pour 23, 24 mars, ou tu fais d'autres choses comme tu l'as dit tout au long de l'année?
C'est le moment des examens ici, donc on n'a pas le droit vraiment de faire des activités après l'école parce que on va passer 8 heures chaque jour pour faire des examens. Et après ça, c'est les vacances de printemps. Mais d'habitude, quand il y a un conflit avec les dates, je le fais avant ou après. Et on dit que c'est... Ouais. Donc,
oui,
si
oui,
c'est
oui.
pas toujours la date, la même date, mais j'aimerais bien faire quelque chose en avril.
Très bien. Non, mais je te pose la question parce qu'on a toujours un grand débat en France, justement, avec le commissariat général à la fête de la gastronomie. Ils veulent que ce soit toujours sur le week-end. Et moi, je fais partie de ceux qui disent... S'il vous plaît, laissez faire la fête de la gastronomie Goût de France quand c'est possible pour les gens.
Oui, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vraiment difficile. Ça dépend parce que pour les restaurants, n'est-ce pas? Ils sont déjà occupés, ils ont beaucoup de clients pendant ce moment. Et puis, pour les professeurs aussi, il y a toujours cette question, comment est-ce qu'on peut avoir accès à l'école pendant le week-end? Je ne sais pas comment organiser. Il y a le groupe de professeurs aux États-Unis qui veulent vraiment participer, mais pour nous, en septembre, c'est un moment difficile parce que c'est le début de l'année.
Oui, mais non, mais alors, mars, je comprends que mars, il y a les examens. Donc, vous le faites avant ou après. Et septembre, ça ne va pas non plus parce que c'est le début de l'année.
Oui, c'est la rentrée.
Oui, d'accord. Mais le groupe Facebook, les amis de la fête de la gastronomie, donc la trentaine de profs que tu as entraînés avec toi, parce que tu es une meneuse, tu es une vraie chef d'entreprise.
C'est une façon de... qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir nos programmes de français? Parce qu'il y a des programmes en chute quelquefois. Pour le français, est toujours populaire. Mais je dis, pour promouvoir les programmes de français, je propose d'offrir la fête de la gastronomie, le Goût de France, pour montrer à la communauté, nous faisons quelque chose de très bien.
Ça, c'est sympa, c'est sympa. Donc, bon, je vais sur la page, sur le groupe Facebook, je vais reparler de Good France. Après, on verra. J'avais encore une autre question. Est-ce que lorsque tu travailles sur les produits ou sur une période de l'année qui est reliée à la gastronomie, est-ce que tu travailles avec la littérature française, avec les auteurs, tu vois, avec oui. Rabelais par exemple.
Rabelais c'est un peu avancé pour mes apprenants, mais j'ai utilisé Marcel Proust une fois parce que j'ai préparé des madeleines. C'est vraiment, non, j'ai coupé un peu les phrases, j'ai posé des questions accessibles aux apprenants. Mais je voulais montrer, c'est quoi votre souvenir culinaire? Et ils ont lu une partie de Proust au sujet des madeleines. Et puis, ils ont écrit leur propre souvenir. Ils ont trouvé des photos. Et on a fait un projet, mes souvenirs culinaires, photos et audio. Ils ont enregistré leur paragraphe. Et ça, c'est une façon comment j'ai utilisé la littérature. J'ai des livres ici qui sont destinés aux enfants, avec des recettes pour les enfants. La littérature, j'aimerais bien... J'ai des poèmes. Mon mari, il est professeur de littérature, donc il me fournit avec des poèmes que je peux utiliser. Puis il y a des chansons, mais pour la vraie littérature, je n'ai pas encore essayé tout ce que je veux faire. J'ai des plans, mais il faut y penser un peu plus.
Imagine. Denis ?
Oui, ben, je vois que ça atteint une dimension psychopédagogique qui dépasse encore plus le rôle du français. Donc, vraiment, c'est complet, quoi. C'est extraordinaire.
Je voulais parler de ça. Est-ce que toi, Catherine, tu as conscience et tu as la volonté, j'imagine, quand tu nous parles de tout ça, d'apporter à ces jeunes justement cette dimension philosophique, c'est-à-dire c'est une règle de, ce sont des règles de vie, ce sont des règles de comportement à adopter en société, et c'est une construction de l'être, surtout quand on est adolescent, on a besoin de repères. Je comprends bien dans ce que tu dis que un certain nombre ne mangent pas chez eux, ça veut dire qu'il y a une perte de repères très importante, et l'école est là pour mettre ces repères. Et est-ce que tu as conscience, toi, de ce travail-là?
Ouais, mon mari me dit que je suis une folle, mais...
on est d'accord, mais ça me... c'est très...
Parce non, que
mais...
j'ai fait... On me dit que j'ai fait trop. Ouais. Quand il s'agit de la vie d'une personne, je suis prête à faire presque n'importe quoi pour qu'ils aient un souvenir ou une ouverture, une expérience qui va peut-être, comme j'ai dit, mon professeur qui nous a fait couper les oignons, ça m'a changé la vie. Parce qu'avant, je mangeais du mac et fromage, Kraft macaroni and cheese.
Ouais.
Je n'avais jamais mangé du thon qui ne venait pas en canette. Okay? Je ne savais pas que c'était un poisson.
Ouais.
Parce que je venais du Midwest où là, on mange très simplement. Et ce n'est pas comme le simple, comme ce que j'aime en France, c'est les endives avec du jambon et la sauce béchamel.
Ouais.
Pour moi, c'est exotique, c'est extraordinaire. Pour mon mari, c'est, c'est quelque chose... Quand on n'a rien dans le frigo, on va préparer les endives au jambon.
Oh. Ah oui. Eh bien, la prochaine fois que tu fais les endives, tu les fais avec un jus d'orange.
Ouh.
C'est extra. Wow. Alors, tu les fais braiser doucement, gentiment, et quand elles commencent à changer de couleur, tu verses un jus d'orange et elles vont cuire gentiment et se caraméliser tout doucement.
Oh, wow.
Essaie, tu m'en diras des nouvelles.
OK. Oui, les endives, et maintenant on peut trouver des endives en toute saison. C'est un peu bizarre parce que je pensais que c'était uniquement pour l'hiver.
mais c'est pour l'hiver. Chez nous, il y a des endives, alors essentiellement l'hiver. Alors ça aussi, c'est une notion qui est très importante. Oui. Manger des produits de saison.
De saison, c'est ça.
Hein? Tu travailles sur ce sujet, manger des produits de saison.
Exactement, il y a un calendrier, une application que j'ai trouvée avec les produits et les fruits et légumes qui sont en saison. Et c'est comme ça que je montre en hiver, en été, au printemps, on travaille le vocabulaire des saisons. Et après, il y a des photos avec les fruits et les légumes qui sont en saison. Et je montre ça aux débutants pour montrer l'idée de manger en saison. Ils ne savaient pas que c'était... Parce qu'on peut trouver des poivrons en hiver. Ce sont des poivrons qui viennent des serres. Je pense que c'est le mot serre. J'ai dit, vous savez que naturellement, les poivrons ne se cultivent pas en hiver. Vous savez? Non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas.
Mais ça va aussi dans l'idée que tout ne se fait pas n'importe quand.
Oui. Et c'est ça, quand on a discuté pour la fête en mars, qu'il n'y a pas beaucoup de fruits et de légumes en saison, je me suis rendu compte de ce fait et j'ai dit, ah, c'est vrai. Mais puisqu'on peut en trouver, et ça, c'était une situation compliquée parce qu'on a l'habitude de trouver des choses. Ils sont plus chers, c'est vrai.
Oui.
Et la qualité n'est pas toujours la meilleure, pour exemple, les tomates.
Oui, oui. Mais alors, pour les légumes, au mois de mars, nous, on a exactement le même souci. On leur en a déjà parlé, d'ailleurs. Bon, c'est un autre problème. Je vois que l'heure avance, Catherine. Alors, cinq minutes, OK. Alors, je voulais, si je te dis, Jim Harrison.
Je ne connais pas ce nom.
Ah bon, alors il est né dans le Michigan en 1937.
Okay.
Et il est décédé en 2016 en Arizona. Et c'était un gastronome critique et écrivain. Mm-hmm. Il a écrit tout un tas de bouquins. C'est un fou, gentil, génial. Et il a écrit notamment un bouquin qui s'appelle « Un sacré gueuleton ». Gueuleton, ça, tu hein,
voilà, oui, un gueuleton, oui.
Un sacré gueuleton. Et alors, dans la dernière page, je reviendrai un peu, il dit, quand la vie décide de m'accabler, je sais que je peux faire confiance à un bandol. Un bandol, c'est un vin rosé de Provence.
Ok.
D'accord. Avec quelques gousses d'ail et Mozart.
Oh, wow, c'est beau ça.
C'est extraordinaire.
Oui, c'est beau. Voilà.
Alors,
c'est ça la vie.
Oui, c'est ça la vie. Il était tellement fou, il dit, je n'avais jamais d'argent, mais quand il venait en France, qu'il faisait le tour des restaurants, des grands restaurants, il buvait essentiellement des grands bourgognes, genre Romanée Conti, tu vois, à 6000 euros la bouteille.
Oh, ok. Moi, j'aimerais bien y goûter aussi.
Moi aussi.
Waouh.
Ben écoute, Catherine, je pense qu'on a fait un petit tour. Peut-être on refera une opération de ce genre sur des sujets peut-être un petit peu plus précis. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oh, tout à fait. Oui, on peut continuer aussi la conversation après la soirée des desserts.
Oui, oui, oui. Par exemple, que tu nous parles de ta soirée des desserts et que l'on parle des desserts en général. Et d'ici là, j'aurais eu un contact avec Ismaël Menot de l'EPMT. Écoute, Catherine, je te remercie infiniment.
Ok, ben c'est moi qui vous remercie tous les deux parce que passer ce temps avec vous avant de commencer à enseigner mon cours avancé, je vais raconter cette expérience. Ils seront jaloux. Ils vont dire, pourquoi est-ce que nous ne pouvions pas participer à la conversation et...
Alors, on pourrait faire ça une prochaine fois.
J'aimerais bien. Ils sont, quand il y a quelqu'un qui... Ils aiment bien le contact avec les francophones.
Denis, je ne sais pas ce que tu en penses, il n'y a aucun problème.
Okay, ben, moi, en plus, je peux comprendre un petit peu l'espagnol et l'anglais, donc pas de souci non plus. Voilà, c'est super.
Oui. Ils aiment bien poser des questions. Ils aiment beaucoup poser des questions.
Ouais. Oui. Écoute, Catherine, organise ça avec tes élèves et on fait ça. Hein.
Ok, moi, de suite. Tout à fait.
Wow. Pour nous, c'est formidable. Merci beaucoup, Catherine. Donc, pour la fin, on mettra aussi une petite pièce de musique de John Days. D'accord?
D'accord.
Merci Catherine. À très bientôt. Bonjour. Donne bien le bonjour à tes élèves. Hein, oui. Puis tu leur montres la photo puisqu'elle est, au dos du bouquin. Et puis là.
Ils ont bien aimé le livre. Ils ont utilisé pour une recette. J'ai dit OK, on va préparer une chose de votre livre. Donc ça c'est très très bien.
C'est gentil. Super. Donne le bonjour à ton époux.
Merci, il est
de France, et puis à une prochaine fois.
Farewell, Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits. I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow. But farewell, Angelina. Sky is on fire, and I must go.